Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Cet homme aimait les gens et il avait envie de les rendre heureux. Et longtemps, il se posa la question de savoir comment il pourrait rendre les gens heureux. Et comme il se posait cette question, un jour lui vint une histoire, une belle histoire, si belle que lui vint l'envie de la raconter. Il se dit, ah! Mais si j'avais d'autres histoires comme ça, ah, je suis sûr qu'avec elles, je rendrais les gens heureux.
Cette voix, c'est tu, et avec elle une partie des histoires et de la mémoire du monde. Henri Gougaud est mort, laissant ses quelques mots à titre posthume sur sa page Facebook. À peine a-t-on le temps de vivre, qu'on se retrouve cendre et givre. Adieu, et pourtant j'aurais tant à faire. Écrivain, poète, conteur, un géant du conte que je vous propose d'entendre encore, encore un peu. Il y a 3 ans, je le recevais pour son livre « J'ai pas fini mon rêve ». Livre dans lequel il disait, ou plutôt écrivait, « Je fus jadis à Aed, en Grèce. Je suis de ceux qui ont inventé le déluge, l'histoire d'Héraclès, d'Œdipe, de Thésée, de Prométhée. » À Aed, c'est ainsi qu'on nommait en ces temps ceux qui faisaient bouillir les chaudrons de parole. Bonjour Henri Gougaud.
Bonjour.
Il faut donc que je vous nomme Aed, vous le conteur qui depuis plus de 30 ans cherchait et dit les vieilles histoires du monde.
Non, bien sûr que non. Non, non. J'ai même eu du mal à décider ou à me trouver digne du nom de conteur. Alors,
Pourquoi?
ah parce que moi, quand j'étais gamin, je me faisais toute une. Les conteurs, c'était des gens extraordinaire, qui savait manier la langue dans tous les sens, qui savait fabriquer des images avec des mots, quoi.
Et dans les années 70-80, quand vous devenez conteur, parce que vous avez eu plusieurs vies, on va en parler, ce terme-là est un peu ringard, du moins ici en
Oui,
France.
ben oui, bien sûr, parce que le conteur, c'est un vieux papy au coin du feu, en train de raconter une histoire en tirant sur sa pipe. Voilà, en gros, l'image qu'on a du conteur, c'est ça. Une image de toute façon rurale. Or, les années 70 sont les années où le comte sort des campagnes pour investir les villes, les banlieues, avec toute une autre culture populaire, le slam, etc. Une nouvelle culture, quoi, est en train de naître. Le comte en fait partie.
Et vous avez participé à cette revalorisation d'ailleurs du conte, vous et
Ben,
quelques autres,
c'est-à-dire que,
mais...
le, oui, bien sûr, Bruno de La Salle, par exemple, qui avait fondé le Clio, le Centre Littérature Orale. Mais moi, ça s'est passé tout à fait par hasard, puisque les hasards de la vie, des rencontres, ont fait que, au tout début des années 70, j'ai commencé à faire de la radio avec Claude Villers, France Inter, dans une émission qu'il avait créée qui s'appelait Marche ou Rêve. Et là, je racontais tous les soirs une histoire, une légende de la région concernée.
Et cela a participé justement à la revalorisation. Tout d'un coup,
Ben
on
oui!
entendait des contes à la
Tout
radio.
d'un coup, on entendait des contes à la radio, racontés par quelqu'un qui n'avait pas la voix timbrée comme il fallait qu'elle soit à cette époque-là, qui avait un accent alors que l'accent dans les radios nationales était strictement banni. J'avais rien pour faire de la radio. Bon, il s'est trouvé que ça a fonctionné assez pour que je reste jusqu'au début des années 80, quoi.
Et c'est comme ça que la littérature populaire et la littérature orale, qui était un peu méprisée dans les années précédentes, a commencé à avoir droit de cité. Mais alors,
Ouais.
j'ai envie de préciser vraiment ici, à l'époque, parce que en Afrique, dans le même temps, l'oralité, le conteur a toute
Ah
sa
ben
place. Et
oui, bien
c'est ce que vous
sûr.
racontez dans votre livre, quand vous partez en Afrique en 1987 et vous découvrez la puissance de la parole sur ce
Absolument,
continent.
oui, ben oui. C'est pas anodin de raconter en Afrique. Vous voyez la différence chez nous, c'est complètement anodin de raconter une histoire. Bien, en Afrique, qui commence à raconter un conte ouvre la porte aux esprits, c'est-à-dire aux énergies qui habitent ce qu'il va raconté. Donc on ouvre la porte aux esprits, on ferme la porte aux esprits à la fin de l'histoire. Je ne dirais pas que c'est une activité sacrée, mais enfin qui touche quand même, oui, au sacré.
Et au cœur de la vie, au cœur du fonctionnement de la société aussi.
Absolument, oui.
Alors, du conteur, on sait qu'il a la parole. Vous rajoutez dans ce livre « Je n'ai pas fini mon rêve » que c'est aussi celui qui voit, celui qui se fait capteur.
C'est tout un jeu. Je prétends, et j'ai toujours prétendu, que je considère le conte comme un art de la relation. Finalement, raconter une histoire, c'est l'art d'être ensemble. C'est l'art de partager quelque chose. C'est l'art de n'être plus seul, en fait. Puisque j'entends une histoire, elle m'amuse ou elle m'émeut. Ce que je ressens, j'ai envie de le aussitôt, c'est de le partager à quelqu'un d'autre qui va vibrer aux mêmes choses, qui va rire aux mêmes endroits ou s'émouvoir. On n'est plus seul, du coup. On est plusieurs. Je ne suis pas seul à ressentir ce que je ressens. Au fond, c'est ça. On a toujours besoin de l'autre pour partager ce qu'on ressent, pour n'être pas seul au monde, quoi.
Et donc, pour ne pas être seul au monde, il faut échanger. Il faut échanger aussi avec le regard, d'où l'importance du voir, une attention de sorcier,
voilà,
dites-vous.
Oui, oui.
Et vous dites ça, c'est très, très beau. Je trouve que c'est une leçon de vie, qu'il y a deux regards possibles dans le conte, mais dans la vie aussi. Celui qui donne vie aux êtres que vous regardez et celui qui ne donne rien.
Oui, mais ça, c'est... mon ami Louis appelait ça l'épice. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus, quoi. Si on allume son attention, si on allume son désir, vous sortez dans la rue... pour acheter les croissants du petit-déj, ou vous sortez complètement enfermé dans vous-même, ensommeillé, tout ça, et les gens sont des obstacles, et les murs sont des murs, et les arbres sont des arbres, enfin, rien ne vit. Vous sortez et vous allumez quelque chose à l'intérieur, un désir d'être au monde, je dirais, ça comme ça, et les feuilles des arbres sont plus vertes, et les gens ne sont pas des objets, enfin, tout change, quoi. Voilà.
Alors ce livre, vous le dédiez à votre fils, évidemment, écrivez-vous, parce que j'ai envie de rajouter qu'être conteur, c'est être dans la transmission, forcément.
Oui, c'est forcément être dans la transmission. Mais par rapport à mon fils, c'est que si ce livre est né et s'il est là, sur notre table, c'est lui qui l'a voulu. Parce que, bon, disons, on peut dire que c'est un fils tardif. J'ai eu une vie avant lui, quoi. Quand il est né, j'avais quand même quelque chose comme 55 ans. Bon, il connaissait ma vie, bien sûr, mais pas tout. Enfin, bon. Et à un moment, un éditeur m'a proposé de raconter ma vie comme ça. J'ai dit non parce que je n'avais pas envie de raconter ma vie. Je suis de nature plutôt discrète. Puis bon, j'en ai parlé comme ça en famille. Il m'a dit, mais tu es fou, il faut que tu le fasses. Tu as une vie formidable, etc., etc. Il m'a convaincu, aussi bien que je lui ai dit, bon, si tu veux, on le fait ensemble. Voilà, ce que tu veux savoir, je te le raconte. Tu me poses les questions.
Dis papa, raconte-moi ta vie, en fait.
Exactement. C'était ça.
À vous, Henri Gougaud, je vais vous proposer aujourd'hui de vous raconter, enfin, de vous chanter, mais je vous rassure, ce ne sera pas moi, une histoire de... Princesse, Carimouche sur RFI.
Chouchou, ta cagole à chaud à saucisse, ta raton 06, ta tirette de Tinder, ton plan cul, ton 4 heures.
Je suis pas ta gazelle à chasser, ta donzelle à dompter, ta demoiselle à siffler, ton demoiselle à boucler.
Non, je suis pas ta bière à mettre au frais, ta bannière à trophée, ta frontière à tracer, ta rombière à trousser.
Princesse.
Princesse dans De Vive Voix sur RFI, un extrait du nouvel album de Carimouche, Folie Berbère. Henri Gougo, vous aimez les jeux de mots et la langue qui s'invente, non ?
Ah oui, bien sûr, ben oui. La langue française, les mots en général, c'est ma matière première. Moi, c'est avec ça que j'entre en relation avec les autres. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, la relation ou la transmission ou le partage, c'est pour moi, c'est essentiel. Il n'y a pas de vie sans ça, quoi.
Vous racontez dans votre livre une scène dans un bistrot et vous écrivez « Le serveur torchonne la table ». Ben je trouve ça très joli, je trouve ça beaucoup plus imagé, par exemple, qu'essuyer la table. C'est une invention, pourtant, de vous torchonner la table.
Bon, je n'ai pas inventé le mot torchonner, mais effectivement, c'est avec un torchon qu'on fait ce genre d'activité.
Cela dit, dans le titre même du livre « J'ai pas fini mon rêve », vous prenez quelques libertés avec la grammaire, hein, parce que normalement, c'est « Je n'ai pas fini mon rêve ».
Oui, oui, et ça a été l'objet d'une discussion avec mon éditeur qui voulait « Je n'ai pas fini mon rêve ». Moi, je tenais à « J'ai pas fini mon rêve » parce que c'est un vers d'une chanson que j'ai écrite pour Jean Ferrat, « La matinée ». La matinée se lève, toi, debout. Attends encore, attends, j'ai pas fini mon rêve. Voilà, c'est le début de la chanson. Et donc, j'ai trouvé que c'était adapté parce qu'effectivement, si j'écrivais réellement ma biographie, il faudrait que je sois mort. Parce que, mais je suis pas encore mort, je suis susceptible. Enfin, j'espère que je pourrai faire encore beaucoup de choses. Mais effectivement, j'ai l'impression d'avoir vécu cette vie-là comme un rêve. Parce que, vous savez, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, comme ça arrive à tout le monde, où mon père m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, je lui ai dit, je veux être poète. Il l'a bien entendu, il m'a dit, bon, d'accord, mais à part ça. Et je lui ai dit, à part ça, rien. C'est là que mes parents ont commencé à s'inquiéter. Ils ont commencé à se dire que ça me passerait, mais ça ne m'a pas passé.
Alors, ce livre n'est pas une autobiographie au sens strict, mais quand même, ça l'est un tout petit peu.
Je raconte ma vie.
Voilà. On voit le petit Henri naître. Voilà, il y a des oublis, il y a des trous. Vous parlez de gens très célèbres et d'autres complètement inconnus. On vous voit naître à Carcassonne, juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans une famille plutôt laïcarde, donc plutôt à gauche, tout à fait. Même mère institutrice, père cheminot. Vous découvrez la poésie à 16 ans, Baudelaire, Verlaine, Desnos. Vous faites du théâtre, et on peut dire que vous avez, grosso modo, une enfance assez heureuse.
Oui, sauf qu'elle s'est déroulée quand même pendant la guerre.
Voilà, ça c'est un bémol assez important.
Oui, mais c'est un bémol pas très important, parce que finalement, la guerre, je l'ai connue de 4 ans à 9 ans, quoi. Mon enfance, en fait, c'est la guerre. Comme je n'ai pas connu autre chose, c'était comme ça, c'était naturel, c'était pas grave.
Néanmoins, vous devenez poète très vite après la guerre, puisque vous écrivez des chansons. C'est votre façon à vous d'être poète.
J'écris d'abord des poèmes, puis comme le Père Noël, je ne sais pas à quel âge, m'a apporté une guitare, ces poèmes se sont changés en chansons.
Alors, on peut faire la liste des gens pour qui vous avez écrit. C'est quand même très prestigieux. Juliette Gréco, Serge Reggiani, Jean Ferrat, Christine Sèvres. C'est très rive gauche aussi, parce que vous allez chanter à l'Écluse, côtoyer Brel, Barbara, Brassens, Brigitte Fontaine. C'est vrai que c'est une vie, un début de vie qui fait rêver.
Oui, et je crois que c'est la période la plus heureuse de ma vie, la plus émerveillante, parce que j'ai passé mon adolescence, et même un peu plus, parce que j'ai fait des études quand même à Toulouse, j'ai été étudiant, et pendant toute cette période-là, je ne rêvais que d'une chose, c'était, moi j'entendais à la radio ces voix, les voix de ces gens dont vous parlez, et je me disais que moi, voilà, je voulais être comme ça. je voulais faire partie de la bande, si vous voulez. Et il se trouve que ces gens-là, ils passaient à l'époque dans les cabarets comme l'Écluse, comme l'Échelle de Jacob, comme enfin, la Rive Gauche, quoi.
Et vous y êtes à la fois dans la coulisse comme parolier et puis sur scène aussi, puisque vous allez chanter et votre nom est en haut de l'affiche.
Oh, l'affiche
un peu non. Quand même.
Non, je suis un peu connu sur la Rive Gauche. Mais ce n'est pas ma vocation. Ce que j'ai réellement envie de faire, c'est d'écrire. Je chante parce que si je ne chante pas, on n'entend pas mes chansons. Si on n'entend pas mes chansons, je n'intéresse pas les gens qui sont susceptibles de les chanter. Donc moi, j'aime bien écrire pour les autres.
Et l'un de vos plus beaux textes, c'est vous qui le dites, hein, je crois, dans ce livre, c'est pour Reggiani, « Paris, ma rose », car depuis longtemps, le gamin de Carcassonne a quitté le sud pour la capitale.
Où est passé Paris, ma rose, Paris sur Seine, la bouclée, sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris, ma rose, où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genin, l'avenue? Et le chemin vert, qu'est-il devenu? Lui qui serpentait près de la Bastille.
Serge Reggiani sur un texte d'Henri Gougaud. J'ai l'impression, à vous voir écouter ce court extrait, que ça vous rend un peu nostalgique.
Oui. Ça m'a fait nostalgique. Écrire ce livre m'a fait revenir sur des périodes de ma vie, bon, que j'avais normalement oublié, mais en y revenant, je ne pouvais que me dire « t'as quand même eu de la chance ».
Voilà. Parce que ça, c'est votre première vie. Il y a eu d'autres vies. C'est comme les chats, Henri Gougaud. Vous en avez au moins 3 ou 4 connus pour l'instant, en tout cas. Vous avez été écrivain, ça, c'est plutôt à la fin des années 70. Vous avez écrit des romans, une nouvelle d'abord pour laquelle vous avez eu le prix Goncourt de la nouvelle, et puis après des romans. Puis vous avez fait de la radio pendant 10 ans, vous l'avez dit, sur France Inter essentiellement. Et puis ensuite, il y a eu cette vie de conteur.
Vie de conteur, elle s'est bien mariée avec ma vie d'écrivain. C'est-à-dire que je mêlais les deux. J'écrivais une année, écrire un livre, un roman, où ça me prend à peu près 1 an. Et l'année d'après, je sortais pour raconter. C'était un bel équilibre.
Et dans tous les cas, vous avez fait serment de ne servir que la vie. C'est ce que vous dites dans ce livre.
C'est-à-dire que, en fait, je crois que quand on écrit, c'est-à-dire quand on sait manier les mots, qu'on a appris ça, qu'on a des outils, qu'on les a affinés, que bon, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Je vais parler aux gens, je vais écrire des livres, je vais raconter des histoires, mais pour leur dire quoi aux gens ? Il faut quand même que je sache. Moi, je ne peux pas ne pas me poser la question de ce que je transmets aux gens. Et qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre ? Et qu'est-ce que je dois, à mon sens, éviter de leur transmettre, je décide que si je désespère, je me tais. Je ne suis pas là pour ajouter mon grain d'angoisse à l'angoisse du monde. Ce n'est pas la peine. Bon. Sinon, je vais essayer de dire des choses qui leur donnent envie de vivre. Pas servir la vie, ça peut avoir l'air complètement démesuré, mégalomane, mais non. Je veux dire, essayer de faire passer un bon moment à des gens, c'est servir la vie.
D'autant qu'avec vous, tout est vivant. Il y a un petit côté chaman, vous racontez la présence des morts auprès de vous dans certaines circonstances, le fait que vous parlez aux objets aussi, et que vous parlez aux arbres, aux fleurs, à la nature.
Attention à ce que vous dites, parce que je vais passer pour un allumé complet. Non, oui et non. Enfin, bon, je fais partie des gens, et je crois que tout le monde a envie de savoir pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait là, non ? Chacun fait ce qu'il peut avec ces questions-là. Voilà. C'est-à-dire que mon ami Louis Sansa, qui a provoqué l'écriture d'un de mes livres qui s'appelle « Cette plume de l'aigle » et qui était un indien quechua, m'a pas mal influencé. Je lui posais souvent la question, parce qu'il me parlait des esprits, de ceci, ça. Souvent je lui disais « Mais ce que vous me dites là, c'est vrai ou pas, les esprits? Vous pensez qu'ils ont une existence objective ?» Et il me regardait bizarrement, sans me répondre, puis à force, il m'a répondu. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous me posez là comme question? Ça vous sert à quelque chose? Ils vous sont utiles, les esprits, quand vous croyez qu'ils existent? Ils vous sont utiles ou pas? Nous, me dit-il, nous sommes des primitifs. Nous sommes des pauvres. On ne peut pas se payer le luxe du vrai ou du faux. Si on peut s'en servir, on s'en sert. Voilà. Et cette manière de changer les choses en non plus vrai, faux, mais efficace, inefficace, ça m'a beaucoup servi.
Et ça a fait de vous, en tout cas, je sais pas si c'est un précurseur, mais quelqu'un qui a eu conscience très très tôt des enjeux environnementaux, climatiques. Oui. Et ça, dès les années 70, où vous croisez d'ailleurs le chemin de Ivan Illich, qui fut un précurseur de l'écologie politique. Mais on va revenir sur les contes, parce qu'il y a un jour un déclic, c'est la lecture des Mille et Une Nuits, à la fête de l'humanité. Vous lisez ce conte et c'est ça qui vous donne un peu le déclic d'être conteur.
Oui, c'est ça. C'est drôle parce que je me souviens très précisément de ce jour-là. Il faisait froid, d'ailleurs. À la fête de l'UBA, je dois chanter devant 30 000 personnes. Vous vous rendez compte? Enfin, non, on peut se rendre, même si j'ai terminé à le faire, je ne me suis jamais rendu compte de ce que ça signifie. On a une espèce de marée humaine devant soi. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais justement, ce jour-là, ou quelques jours avant, j'ai commencé à lire Les Mille et Une Nuits et je n'ai pas pu m'en décoller. Je découvrais un univers complètement fascinant pour moi. Et effectivement, à la fête de l'UMA, sur ce podium devant 30 000 personnes, je me cachais derrière des baffles pour continuer à lire Les Mille et Une Nuits.
Il y a eu Les Mille et Une Nuits, et puis dans votre vie, il y a eu Les Mille et Un Contes, ceux du monde entier.
Le chasseur et le python. C'était un grand chasseur, son œil était agile et son arc infaillible. Un jour, dans la forêt, comme il allait sans bruit, il parvint à l'orée d'une clairière ronde et la fit halte, circonspect. Dans le soleil mouvant qui éblouissait l'herbe, était un gros python, mollement enroulé sur une bête morte. « Salut, chasseur, » dit le serpent. « Salut, chasseur, » répondit l'homme. « Veux-tu m'aider, » dit le serpent, « à dépouiller cette antilope ?» L'homme hocha bravement la tête. Il sortit son couteau de fer. La besogne fut bientôt faite. « Merci, chasseur, » dit le serpent. « Veux-tu connaître ma demeure ? Viens, tu seras mon invité. La paix sur nous. Va, je te suis. » Ils s'en furent sous les grands arbres, traînant leur gibier dépecé.
Le chasseur et le python, c'est l'un des nombreux contes que vous avez enregistrés, Henri Gougaud, car votre répertoire est très large. C'est le monde que vous avez embrassé avec ou sans accent, parce que d'ailleurs, votre accent occitan n'empêche pas de dire des contes esquimaux, par exemple.
Je vois pas pourquoi ça m'empêcherait de le dire. Non, mais ce qui me fascine avant tout dans cette affaire-là, dans les contes, c'est leur universalité. Il n'y a rien de plus faux que la notion de terroir. De croire que certains contes sont d'ici et pas d'ailleurs. Ce n'est pas vrai. Ils sont de partout. Les contes sont les plus grands voyageurs du monde. Ils ont voyagé dans le monde entier. Ils se sont chaque fois adaptés à l'environnement du lieu où ils trouvaient un conteur pour les raconter. C'est comme ça que les Phéniciens, qui dans l'Antiquité venaient faire du commerce dans la haute vallée du Rhône, on retrouve les mêmes contes dans la Tunisie d'aujourd'hui et dans la vallée du Rhône, parce que ces gens venaient avec leurs histoires, qui racontaient aux gens du coin, qui eux-mêmes les adaptaient à leur village, à leurs voisins, à leur environnement. Et voilà, les contes véhiculent une leçon de vie extraordinaire. C'est une adaptabilité infinie.
Mais voilà. Comment vous les avez découverts ou collectés? Parce que j'ai le sentiment d'être face à une bibliothèque vivante quand je vous regarde.
Bah, je ne sais pas, ça s'est fait. J'avais quand même, souvent, les choses partent de ce lieu-là, d'un professeur qui change tout. Il s'appelait René Nelly, il était spécialiste des troubadours et ethnologue. Je l'ai vu comme prof au lycée à Carcassonne, puis à l'université à Toulouse. Et il faisait de la collecte dans les corbières avoisinantes, de la collecte de la parole des gens, parce qu'il était lui aussi, à l'époque de Jean Villard, partisan de la culture populaire. Jean Villard pensait que la culture, en gros, et grossièrement, que la culture populaire consistait à amener Shakespeare à l'usine, disons ça comme ça.
Il l'a emmené au Festival d'Avignon qu'il a
créé. Oui, oui. Et Nelly et quelques autres pensaient que si on voulait savoir ce que c'était que la culture populaire, il fallait aller voir qu'est-ce qui circulait comme culture dans le peuple. Et ce qui circulait comme culture dans le peuple, c'était les contes. Donc voilà, c'est un peu un début militant, comme ça, c'est ce qui m'a attiré vers le collectage, aller voir ce qui circule. Et en allant voir ce qui circule dans les campagnes en termes de littérature orale, on s'aperçoit que ce que les gens racontent dans les corbières, il y en a une autre version quelque part en Malaisie, quoi.
Mais vous n'en avez jamais inventé ?
Non.
Jamais ? Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer.
Bon, je vais vous faire une révélation. J'ai commencé à écrire des contes, mes trois premiers livres de contes forment une trilogie, c'est L'arbre à soleil, L'arbre au trésor et L'arbre d'amour et de sagesse. Par jeu, comme ça, dans chacun des trois, il y a un faux conte. C'est-à-dire un conte que j'ai inventé. Personne ne l'a jamais trouvé dans la mesure où... voilà, on aurait pu me dire, parce que ça se sent un faux conte quand même.
Moi, ah oui, vous croyez ?
Ah oui, oui.
Bon, ah, oui, 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 on va lire ou relire, on va chercher. Votre vie
mais
devient...
c'est un jeu, quoi.
Une enquête policière. Ce livre, Henri Gougaud, et malheureusement, on va devoir se séparer, mais est dédié à votre fils, « J'ai pas fini mon rêve ». Est-ce qu'un rêve se finit ?
Je sais pas. Je ne sais pas encore. Quand je dis que je vis mon rêve, je veux dire que moi, si à 16 ans, on m'avait dit « Ok, tu vivras de ce que tu écris, mais toute ta vie au SMIC », j'aurais signé tout de suite. Hein. C'était ce que je voulais faire, même au prix d'une pauvre vie. Enfin, d'une vie pauvre, économiquement, en tout cas. Voilà, donc, ce qui m'est arrivé, oui, j'ai réalisé mon rêve parce que, bon, je vis pas, je suis pas riche, mais je vis et je poursuis mon rêve. Il n'est pas fini. Je me dis que pourquoi pas arriver jusqu'à 100 ans et raconter jusque-là des histoires. Voilà, non, j'ai pas fini mon rêve. Enfin, j'espère, parce que si je l'avais fini, je serais mort.
Quelqu'un d'autre ne reprendra pas le flambeau de ce rêve, de rendre les gens heureux ?
Enfin, essayer de ne pas participer à leur tristesse ou à leur malheur, c'est déjà pas mal.
C'est quelqu'un un peu en ce moment. Hein.
Oui, je sais pas. Moi, je fais mon boulot. Après, la suite, ça dépend pas de moi.
Henri Gougaud, 1936-2024, émission que nous avons décidé de rediffuser en hommage aux poètes et aux conteurs. « J'ai pas fini mon rêve » ou « La confrérie des innocents ». Ces derniers livres sont édités chez Albin Michel. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin et Aurèle Charlieu à la réalisation. Émission à réécouter sur RFI.fr, sur l'appli Pure Radio et sur Facebook.